Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, vous connaissez sans doute, ce sont des histoires, des contes, des légendes, tout un tas de choses. Aujourd'hui, on va partir à nouveau, puisqu'on y était déjà allé, au Tibet, avec un conte facétieux, comique, qui s'intitule « Chapopo et Tsiloulou ». Un drôle de nom. Mais avant de commencer avec les contes tibétains, avant de partir au pays des neiges, sur le toit du monde, comme on dit souvent, eh bien, on va aller faire un petit détour par de la poésie. Je suis tombé sur un livre qui s'intitule « Nous brûle ». Et il y a très peu de références, je ne sais même pas le nom de l'auteur, c'est fait par B. Il y a une vague adresse internet que j'ai du mal à déchiffrer, c'est tout, il n'y a pas de nom d'éditeur. Ça doit être un ami qui m'a passé ça, c'est peut-être de l'auto-édition. Nous brûle, ce sont des poésies, je ne sais plus d'où ça vient, mais je vais vous en lire quelques extraits. Un peu de poésie bizarre. La masse du vivant déferla sur nu. Nu déferla sur négatif. Qui à son tour déferla sur le retrait du songe. Le retrait du songe déferla sur la somme des montagnes, qui déferla sur l'alphabet, qui déferla sur généalogie, qui dormit un peu. Généalogie déferla sur feu, qui déferla sur le secret des couleurs, qui déferla sur abri et sur corps. Corps déferla sur cendre, qui déferla sur racine, tandis qu'abri déferla sur fils et fille, qui ensemble déferlèrent sur la racine qui s'assombrit et se taira. Peu après, la racine assombrie déferlait sur ville, qui déferlait sur vol, qui déferlait sur couronne de papier. On perdit la trace de couronne de papier alors qu'elle s'apprêtait à déferler sur ambivalence. À l'envers de toi, qui est là? À ta place vide, qui porte ta voix? Quelles sont ces ombres qui dessinent ton nom? Si tu te retournes, auras-tu toujours le même village? Et si tu cesses de penser, qu'est-ce qui cessera vraiment? L'inquiétude fera-t-elle de toi un lieu sûr pour toi-même? Qui respire dans ton apnée? Chut, écoute, on dirait un cœur qui bat.
Toc, didi, toc, voglio cantare. Tac, papa, sa fa andana sia. Tac, tutta notte insieme a tia Giorgia, tu vuole ballare. Tac, didi, toc, Giorgia mia. Tac, si io canto insieme a tia. Tac, tutte e due amma cantare. Tutte e due amma luccare. E vote giù, le canto la balla. Sono le zombole che sta canzone. Buonata vote, la canto la balla. La sonne la zombole.
Aiguiser son outil chaque fois que l'on s'en sert pour s'apercevoir un jour que c'est l'aiguisoir le véritable outil. Affûter son regard à la meule humide du silence. Les cartilages fringants et l'œsophage dégarni, je suis fier au bras de mademoiselle des deux fusils. Je claque mes thunes sur le sel bleu d'un comptoir clando et rapatrie les intestins de ma compagne vers un pays de chloroforme.
Yeah.
Partons pour le Tibet, avec l'histoire d'un pauvre gros et d'une forte grâce, qui permet de comprendre pourquoi, entre autres, les vautours ont une marque blanche au front. Voici l'histoire de Chapopo et de Tsiloulou. Il était une fois un gros bonhomme du nom de Chapopo, qui avait pour épouse la fidèle et grasse Tsiloulou. Depuis toujours, le gros Chapopo gardait les bêtes sur les pentes, sans bas ni haut, tandis que la grasse Tsiloulou restait à la maison pour exécuter dans la joie les tâches ménagères. L'un comme l'autre, ils baignaient dans un sentiment de justice parfaite, et à la différence de la majorité des êtres dits humains, ils étaient pauvres mais heureux. Tous les soirs, Chapopo rentrait des pentes avec les bêtes. Et Tsiloulou lui versait des louches et des louches de bouillon remarquablement gras, au point que Chapopo grossissait un peu plus chaque jour, bien qu'il fût encore loin en matière de graisse, et oui, de l'énorme perfection de sa moitié de ménage. Il se demandait souvent d'ailleurs comment sa chère Tsiloulou s'y prenait pour lui servir autant de bonnes grasses choses tous les jours, et toujours davantage. Il se demandait tant et si bien qu'il finit par en éprouver une espèce d'angoisse sourde, mais assez puissante pour qu'il en vienne à vouloir connaître le secret de son épaisse épouse, le secret et la provenance de ses torrents de suif. Les circonstances, enfin, permirent au dodu d'en finir avec ses doutes. Peut-être même que ma chère épouse n'a pas de secret, osa-t-il penser, qu'elle est grasse comme ça, et généreuse en graisse pareillement. Ce matin-là, il s'en alla avec les bêtes comme si de rien n'était. Mais les ayant confiées aux chiens, il se cacha de rocher en rocher jusqu'au-dessous de la fenêtre et resta aux aguets. Par la fenêtre, il surveillait Tsiloulou. Il la vit rallumer le feu. Et il la vit placer sur le four une énorme poêle à frire. Puis, elle se mit toute nue. Elle était grosse, luisante, belle. Et hop, telle une déesse éléphantesque, elle sauta dans la poêle, brûlante, et s'y roula trois fois, en lâchant des soupirs et des grésillements. Et hop, encore, elle sauta hors de la poêle. Le front plissé, le gros Chapopo découvrit alors que la poêle était pleine à rabord d'huile. Tel était enfin le secret du suif dont abondamment et chaque jour la bonne Tsiloulou le régalait. « Facile !» s'exclama-t-il. « Je peux en faire autant ! À nous les bouchées doubles et les barriques de graisse onctueuses !» Le lendemain matin, le gros Chapopo convainquit la grasse Tsiloulou de garder les moutons à sa place. Il se sentait une envie mystique, dit-il, de faire le ménage, de caresser la maison, d'oublier les moutons. Si bien que, une fois seul, notre gros ami ralluma le feu dans le four sur lequel il plaça la grande poêle avant de se mettre non sans hâte, tout nu. Et hop, ou plutôt patatras, Chapopo se ratatine dans la poêle brûlante. Il est gros, nous n'en doutons pas, mais il n'est pas gras, du moins pas autant que l'excellente Tsiloulou. Alors il frit jusqu'aux os et il rôtit en y laissant sa peau. Chapopo est mort. Pauvre Chapopo. En rentrant le soir avec les bêtes, Tsiloulou découvrit son pauvre époux grillé jusqu'à la moelle et mort bien plus, affreusement noirâtre et rabougri au fond de la grande poêle toute terne et sèche. Et elle pleura. Elle pleura en marchant à tâtons dans la nuit. Elle pleura en criant. Elle voulait à tout prix qu'un bon lama prît soin de l'âme de son gros Chapopo défunt. « lorsqu'il fit plus clair devant, derrière et à l'intérieur de sa puissante poitrine, Dame Tsiloulou remarqua qu'un pigeon s'était posé sur son épaule et lui demandait, avec je ne sais quoi de mécanique dans la voix, pourquoi donc elle pleurait ? Pourquoi donc elle pleurait ? Pourquoi donc elle pleurait ?
Mon chapeau et mon rôti ! Je cherche un bon lama qui empêchera son âme de se réincarner dans les mauvais séjours.
Séchez vos pleurs, bonne femme, roucoula le pigeon. Je suis moine et je vais. Je suis moine et je vais. Je suis. Vous ? Un oiseau ? S'écria Tsiloulou, dont le bon sens abondait aussi. Vous seriez moine ? Prouvez-le-moi en récitant une prière, une formule, ce que vous voulez. Goulou, 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 récita le pigeon. Ça ? Une prière ? S'indigna la pieuse Tsiloulou. Du revers de la main, elle chassa le pigeon et ne pleura plus. Mais sans qu'elle n'y pût rien, c'est bientôt une pie qui se posa sur son épaule et la salua en lui demandant où elle allait de si bon matin par un col aussi élevé.
« Je cherche un lama qui sache guider l'âme de mon défunt mari. »
« Je suis votre homme, dit la pie. Je suis non seulement moine, comme vous pouvez le voir, commanda-t-elle en tournant sur elle-même et en lâchant une longue crotte blanche. Mais les cérémonies de l'amorce, c'est pour moi plus qu'une spécialité. « Dites-moi plutôt un mantra, » l'interrompit Tsiloulou.
« Tchaka 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 tcha, »
fit la pie en raidissant la queue. Comme, à l'instar du pigeon, elle manquait vraiment de religion, Tsiloulou la chassa, elle aussi, du revers de la main, avant de poursuivre son chemin dans les hautes solitudes. « Je ne parlerai pas du corbeau qui vient lui tenir le même langage, et je passerai directement au vautour, qui, sans crier gare, se posa sur le sentier qui redescendait et de toute sa stature barra la route, pour ainsi dire, à Tsiloulou. Celle-ci, légèrement effrayée, s'arrêta net en regardant sans espoir les pierres éboulées qui comblaient tous les horizons.
« Où allez-vous, madame, de si bon matin ?»
Tsiloulou éclata en larmes avant de raconter toute son histoire au vautour qu'il écoutait avec des haussements d'épaules de sympathie.
« Quelle affliction, compatit-il, me permettrez-vous de procéder, moi, à ces cérémonies ?»«
Ah ! » s'exclama Tsiloulou, « vous êtes lama, vous aussi ? Prouvez-le-moi, ou sinon je n'aurai plus peur de vous. » Le vautour, qui était fort malin, se rappelait quelques bribes de prières et de formules qu'il avait maintes fois entendues lorsque, avec ses congénères au bec puissant, il nettoyait les charniers du ciel. « Bhagavat tatagato arat. Samyakamsa Buddha. Immédiatement convaincu de l'état de l'âme de cet oiseau-là, Tsiloulou joignit les mains en lui rendant force hommage. Elle était enfin tombée sur le bon numéro, et c'est presque joyeusement qu'elle invita à le suivre chez elle pour entreprendre sur le champ le rituel. Dès qu'ils furent arrivés, Tsiloulou pria le vautour de s'asseoir sur une haute pile de coussins et déposa devant lui le cadavre ratatiné, mais gros encore, de feu son époux, avant de s'enfermer dans la cuisine pour y préparer 1000 gâteries à l'intention du lama. À la fois triste et heureuse, elle n'avait pas pensé à prendre les instructions du maître. La voilà qui se présente à lui chargée d'un grand bol de yaourt.
« Où est votre défunt époux ?» demande le vautour.
« Mais, oh, vénérable !» Je l'avais déposé devant vous.
Quel malheur ! S'écria le vautour.
Je croyais qu'il s'agissait d'un plat de bienvenue et je l'ai englouti.
Que voulez-vous ?
Tsiloulou entra dans une telle colère qu'elle ne se retint pas de lancer son pot de yaourt à la tête de l'oiseau avant de pleurer, 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 à en perdre un peu de poids et d'eau, mais pas de suif, ce qui importe peu.
Le vautour, lui, avait l'estomac si plein qu'il lui fallut s'y reprendre à trois fois avant de s'envoler.
Ah, j'oubliais l'essentiel. C'est depuis ce jour que les vautours ont la tête marquée de blanc. Nasreddin est de retour, la moitié du bébé. Nasreddin et sa femme avaient un bébé qui pleurait souvent la nuit. La mère passait son temps assise à côté de lui à le bercer pour le calmer et l'endormir. Un soir, épuisée, elle dit à son mari « Lève-toi et berce un peu l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'il nous appartient à tous les deux. Moitié, moitié. Eh bien, va bercer la moitié qui t'appartient et laisse la mienne pleurer, lui répondit-il en enfouissant sa tête sous la couverture. » Alors qu'il devait sortir pour une affaire urgente, Nasreddin reçut un plateau de loukoum en cadeau. N'ayant pas le temps de manger les pâtisseries et craignant que son fils qui travaillait à côté ne le fasse en son absence, il prit son air le plus sérieux et dit « Continue à copier tes leçons et fais bien attention à ne pas toucher à ces loukoums. Ils sont empoisonnés. « Merci de m'avertir, père, et éloigne ce poison de moi pour que je puisse travailler tranquillement. » Nasreddin posa le plateau sur une étagère et s'en fut rassuré et le cœur léger. Lorsqu'il revint une heure plus tard, le fils avait mangé tous les loukoums et se tenait calme dans un coin avec son calame cassé à la main. « Misérable ! Comment as-tu osé manger tous les loukoums ?» Le fils prit son air le plus sincère et dit « En recopiant mes leçons, j'ai cassé mon calame et j'ai eu peur que tu me grondes à ton retour. Voyant le monde s'obscurcir devant mes yeux, j'ai préféré me suicider. C'est alors que je me suis rappelé les loukoums empoisonnés et je me suis précipité pour les manger. » Nasreddin regarda son fils longuement, puis sourit, satisfait. « En fin de compte, je suis fier de toi, tel père, tel fils. »
Quiero morir, cholito lindo, besame así.
Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Ne me demandez pas quels étaient les musiciens du morceau que vous venez d'entendre. Je l'ignore moi-même, mais c'est une compile que j'ai à la maison et c'est de la bonne musique. Sinon, les contes du Tibet venaient d'un livre de Patrick Carré, Corne de lièvre et plume de tortue. Les histoires de Nasreddin venaient d'un livre de Jihad Darwish, Sagesse et malice de Nasreddin, le fou qui était sage. Voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les histoires ou sur les musiques, vous pouvez écrire à la radio. Il y a un site internet, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco. À très bientôt. Thank you.